89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
The CIUT Spring Membership Drive is just around the corner. Donate before May 6th and you could win two tickets to Comic-Con Niagara Falls, including one night's accommodation. You could also donate anytime before June 7th and be entered into the grand prize draw for a trip for two to Dubrovnik, Croatia, sponsored in part by Harry Tarantula Comics. Support the sound of your city today at CIUT.fm.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Passions différentes, de cultures différentes, et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça? Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter.
Quel spectacle anniversaire avec le groupe Cassav qui fête ses 40 ans de carrière, un soir à Paris. C'est parti! On commence donc par un anniversaire avec le groupe Cassav qui fête ses 40 ans de carrière dans la plus grande salle d'Europe, la Défense Arena. Ça va zouker.
Depuis plusieurs jours, le groupe Cassav répète grandeur nature son concert anniversaire prévu le 11 mai à la Défense Arena. Forcément, la pression monte.
Ah bah oui, hein, 40 ans, c'est une date importante. Ces gens, on est mûrs, quoi.
Les 40 ans de Cassav provoquent évidemment chez nous beaucoup de stress. Parce qu'en fait, on a fait déjà les 30 ans, qui apparemment étaient une belle réussite. Donc, rien n'est jamais gagné.
A priori, ça devrait bien se passer. 40 000 personnes sont attendues à Nanterre pour célébrer le succès mondial de Cassav. Ambassadeur des Antilles et bien sûr, du Zouk. Un genre créé par le groupe en 1979 qui puise son énergie dans les musiques traditionnelles comme le goka de Guadeloupe.
Dès qu'on entend, on sait d'où ça vient, quoi. On sait que ça vient pas d'Espagne, des États-Unis, de Mongolie extérieure. Non, on sait que ça vient de la Guadeloupe ou de la Martinique.
Le zouk, c'est un mot en fait. Zouk voulait dire surprise party avant, exactement comme le disco était de la musique qui était jouée dans les discos.
La tournée des 30 ans, ayant duré plus de 3 ans, longue vie donc à Cassav, à la fois symbole et fleuron national.
J'ai des amis hollandais.
J'ai des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, bravo!
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello?
Bonjour!
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, qui a dit quoi ? Sans le français, le Canada perdrait son lustre. Attention, attention, un autre. Thinking global, eat local. Et merci beaucoup à tous nos co-animateurs, co-animatrices, partenaires, commanditaires qui ont accepté de nous aider lors de notre prochaine campagne de levée de fonds, c'est-à-dire qui commence demain. Et dimanche prochain, ils seront nombreux ici en studio. Allez, faites vite si vous voulez renouveler votre adhésion ou vous voulez encore créer un partenariat avec nous. Alors, faites vite, potpourri@cut.fm. L'objectif, c'est assez unique hein, dans notre histoire, 40 ans, 100 000 $ parce que le gouvernement actuel va couper, sabrer dans les fonds des universités et donc les étudiants peut-être ne pourront plus contribuer à la radio. Seule aide, enfin très importante hein, financièrement pour la radio. Donc quel que soit le montant, madame, monsieur, faites un don et nous vous remercions à l'avance de tout cœur. Allez sur le site www.cut.fm/donate. Et indiquer bien sûr Potpourri Show. Bonjour à Bertrand qui nous envoyait un message sur l'immigration francophone. Il n'est pas très content. Wiltrud de From Germany, thank you for your very nice email. J'espère que vous avez reçu ma carte. Ah oui, il y a des gens qui nous écoutent pour apprendre le français en Europe. Ils sont nombreux. Merci à tous nos amis de la Bretagne, de la ville d'Ottawa au Canada, bien sûr, de Toronto, du Québec, de Haïti, Port-au-Prince, Port-Louis, Île-Maurice. Vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, surtout dans la région de Gatineau, Ottawa. L'ingénieur du son DJ Devera, assisté de Sloane Ballan, qui est quelque part dans la ville de Toronto. Production, animation, votre serviteur, Eric Adair, sur www.cut.fm. Malheureusement, nous serons très occupés avec la ligne téléphonique, mais prenez votre chance en nous envoyant un message tout au long de l'émission. Vous avez des questions pour notre invité, M. Carole Jeunin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, ou encore de Sylvain Landry, cofondateur de la galerie Thomson Landry, qui nous invite à une exposition spectaculaire à ne pas rater, Pélan, printemps Pélan à Toronto. Et donc, écrivez-nous potpourri@cut.fm. Eh oui, au menu en ce dimanche 5 mai, première émission d'ailleurs, hein, du mois de mai. Quels sont les dossiers chauds selon vous de l'heure après l'élimination du commissariat des services en français? Certaines sources prédisent qu'il faut se préparer au pire. Je répète, d'après nos sources, eh ben, nous sommes très au courant, d'après les dossiers qu'on a en main, il faut se préparer au pire. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'ombudsman Paul Dubé sera à la hauteur de la tâche? Quelles sont les stratégies de notre invité, M. Carole Jolin, président de l'AFO? Le symposium national sur la sécurité linguistique s'est conclu hier à Ottawa. Est-ce que M. Trudeau y était? Parce qu'il y a des médias qui critiquent la façon de parler, la qualité de français de M. Trudeau. Alors, on en fait le point. Gala Trior 2019, rapidement, hein, on va passer à Yao, Cindy Douard et McLean qui se distinguent parmi les gagnants. Des flèches bien placées au gouvernement Ford qui, on le sait, sabre dans les budgets alloués aux diverses ressources francophones en Ontario, y compris des maisons de production. Et la simple mention du nom du Premier ministre Doug Ford a suscité une vague de huées dans la salle. Il fallait y voir. Et oui, une exposition spéciale à ne pas rater, le printemps pélan à Toronto, du 3 au 2 juin. Voilà, vous avez amplement le temps. La prestigieuse galerie Thomson Landry présente dans son Cooper Rage Space 50 sérigraphies sur papier, numérotées, signées du maître québécois que j'aime bien, acteur principal de l'émergence du modernisme dans l'art, Alfred Pélan. Et nous recevrons avec plaisir pour la première fois Sylvain Landry, qui nous écoute peut-être sur Internet, cofondateur de la galerie Thomson Landry Distillery District. C'est le petit quartier chic que j'aime. Alors, ce monsieur, il fait beaucoup de choses. Hein. Il est chanteur d'opéra, collectionneur d'art, grand voyageur. J'ai hâte de lui parler vers 12h30. Littérature sans frontières. Beaucoup de monde était à Montréal hier pour la remise du prix. Je ne vous ai pas vu, mais comment ça se fait-il? Alors, des mots pour changer. C'est un prix remis à la Britannique Rennie Edo Lodge pour son livre « Why I'm No Longer Talking to White People About Race ». Un livre coup de poing qui dénonce le racisme structurel et qui a fait d'elle d'une voix incontournable dans le débat sur le racisme. Et oui, la traduction française « Le racisme est un problème de blanc » a été publié à l'automne 2018 aux éditions Autrement. Le 11 mai prochain, le mythique groupe Kassav fête ses 40 ans. Vous avez pu avoir un extrait, un avant-goût de la promotion de ce spectacle. Nous sommes très heureux d'être partenaires avec le groupe Kassav. Et si cela vous tente, j'ai un petit billet pour vous, si vous voulez aller à Paris. Mais d'abord, devenez membre. Alors, les jeunes des Antilles crachent-ils sur le zouk? Voilà la grande question qu'un ami antillais de la région de Toronto m'a posée. Les jeunes des Antilles crachent-ils sur le zouk? Gagnez vos places, devenez membre, participez à nos émissions. Très bonne question, je trouve. Et puis le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Comment mieux intégrer des personnes trans en milieu de travail? Et vous avez peut-être entendu cet incident malheureux qui s'est déroulé lundi dernier à la rue Church et Wellesley, où des extrémistes religieux scandaient des slogans homophobes, il faut le dire. Et la police enquête. C'est dommage, 2019 à Toronto. Popourri chaud, soyez des nôtres jusqu'à 13h. C'est l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde, mais c'est aussi toute la diversité du monde sur notre fréquence. De pain sur la planche, madame, monsieur, où que vous soyez, on vous souhaite un bon voyage avec nous, voyage intercontinental, comme à chaque dimanche. Quelques buzz de la semaine. En Ontario, la francophonie est en deuil. Le gouvernement de Doug Ford a enfin réussi son pari. Il a éliminé le commissariat au service aux Français, le poste occupé par maître François Boileau. Les fonctions du chien de garde des franco-ontariens atterriront désormais entre les mains de l'ombudsman de l'Ontario. On en discute avec M. Carole Jolin, notre invité, vers 11h35. Une journée historique pour la sécurité linguistique au Canada. Le symposium national sur la sécurité linguistique s'est conclu hier à Ottawa avec la volonté de poursuivre la discussion. Pour la Fédération de la jeunesse canadienne-française, il s'agissait d'une journée historique dans la réflexion autour de cette problématique. Bilan, les enseignants en milieu minoritaire exercent le rôle de modèle, de passeurs et de médiateurs culturels. Ils demandent, ils transmettent aux élèves des référents culturels et ce qui se passe en francophonie canadienne, nous dit-on. Et pour un participant, je cite, « Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est l'idée de s'ouvrir à la diversité. » On a beaucoup à gagner, à reconnaître et apprécier les accents. Et de plus en plus d'élèves dans nos écoles viennent d'ailleurs. Ils ont tout un monde à nous partager et ça enrichit notre culture francophone. Fin de citation. Ce que je trouve lamentable dans ce genre de réaction, c'est comme si l'immigration francophone est arrivée avec la dernière pluie ou tempête de neige, si vous préférez. Incroyable. Par la même occasion, une gamme de ressources innovantes en construction identitaire testées par les jeunes et le personnel enseignant ont été lancées. Sketch Note, Humour et Scénette, ce sont que quelques pistes de solutions pour contrer des situations d'insécurité linguistique. À noter, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, était bien présent à cet événement. Selon la plateforme de TFO, #ONFR, alors que des discussions et études se poursuivent afin que soit mieux appliquée la loi sur les langues officielles, l'ancien commissaire aux langues officielles du Canada, Graham Fraser, regrette le manque de volonté de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. La modernisation de la loi sur les langues officielles, dont la première version fête ses 50 ans cette année, est actuellement à l'étude au comité parlementaire et sénatorial des langues officielles. De son côté, le gouvernement fédéral mène des consultations à travers le pays qui se termineront sur un symposium les 27 et 28 mai prochains à Ottawa. 1er mai, fête du travail, célébrée un peu partout dans le monde. En Ontario, des milliers de personnes se sont rassemblées mardi devant l'Assemblée législative de l'Ontario pour protester contre les changements apportés par le gouvernement au système de soins de santé en Ontario. Représentants syndicaux, ambulanciers, infirmières, infirmiers, patients, étudiants, étudiantes, ainsi que des francophones venant de partout, étaient solidaires et ont crié, oui, ils ont crié haut et fort aux compressions budgétaires dans le monde de l'éducation, les garderies. En effet, le gouvernement conservateur a mis fin à un fonds provincial de 50 millions de dollars. Certaines garderies ont déjà prévenu les parents qu'elles devront hausser ses frais mensuels. Dans le cadre de cette même manifestation, des militants Antifa ont érigé une fausse guillotine devant le Parlement de l'Ontario. Une militante masquée, pour les circonstances, a brandi une pancarte, je dis bien, sur laquelle on pouvait lire en anglais que l'histoire se répète « chop, chop, chop » en référence à la Révolution française. Le premier ministre ontarien a demandé à la police provinciale d'ouvrir une enquête. Et dernière victime de ce gouvernement de l'Ontario, il sabre le budget annuel de 2,5 millions de dollars de l'agence de recherche Gambling Research Exchange Ontario et lui demande de fermer ses portes à la mi-juillet. Par conséquent, 14 employés perdront leur emploi. C'était la journée de la presse le 3 mai. Selon une enquête commandée par la Fondation pour le journalisme canadien, 40% des répondants ont déclaré qu'ils se sentaient peu ou pas habilités à faire la différence entre une information factuelle et une fausse information partagée dans les médias, fake news. Et dans ce sondage mené le mois dernier, 48% des personnes interrogées avouaient avoir du mal à faire la distinction entre le journalisme factuel et les fake news, tandis que les doutes sur l'authenticité des reportages avaient bondi de 10% au cours de la dernière année. La Fondation pour le journalisme canadien qualifie de troublant les résultats de cette enquête, en particulier à l'approche d'élections fédérales. Soins dentaires en français, est-ce possible ou un rêve, utopie? Et non, notre partenaire en santé Reflet Salvéo nous informe que plusieurs francophones de Toronto et de Mississauga et des organismes en santé ont participé aux consultations à l'échelle provinciale. Reflet Salvéo tiendra une table d'information pendant la journée Via Inclusion le jeudi 9 mai prochain à l'école secondaire Étienne Brûlé. Cela vous intéresse, vous pouvez contacter un membre de l'équipe de Reflet Salvéo au 647 345 55 02, je dis bien 647 345 55 02 au poste 223 ou écrivez tout simplement à Reflet Salvéo, info@reflet-salvéo.ca. Allez visiter le site web www.reflet-salvéo.ca. Et un bonjour particulier aux membres de l'équipe de Reflet Salvéo à l'écoute en ce moment. Une belle reconnaissance et récompense pour un Haïtien, il était temps, l'Ordre de Montréal est décerné, tenez-vous bien, à Jean-Claude Fouron, un médecin d'origine haïtienne, pionnier de la cardiologie fœtale. Reconnaissance après plus de 60 ans de dur labeur. Oui, ça prend tant d'années, madame, monsieur, parfois, quand on est immigrant dans ce pays, ça prend 50 ans, 60 ans. Mais vaut mieux tard que jamais. Bravo à toute la communauté haïtienne et surtout à Jean-Claude Fouron. L'immigration francophone reste un défi. Et oui, pourquoi? Le gouvernement fédéral souhaitait atteindre 4% d'immigrants économiques d'expression française à l'extérieur du Québec en 2018. Il n'en a finalement accueilli que 1,68%. Et pour les militants, organismes communautaires, y compris un invité peut-être bientôt partenaire de notre émission, Bertrand, qui nous envoyait un beau petit message. Que fait le gouvernement fédéral? C'est la question que vous devez poser à M. Jolin ou encore à d'autres. Eh oui, mirage, déception, c'est clair, il n'y a pas d'engagement pour faire avancer la cause, enfin, augmenter le pourcentage des migrants francophones dans les provinces hors Québec, je vous le dis, croyez-moi. Comment se porte la langue française à Montréal? Le bonjour, hi, gagne du terrain dans la grande région de Montréal et ce, dans une indifférence grandissante. Tenez-vous bien, madame, monsieur, 52% des clients interrogés sont indifférents de se faire saluer soit en anglais ou en français. Bonjour, hi, en nette progression. Sur la scène internationale en France, acte à 25 des Gilets jaunes, hier à Nice, Marseille, Lyon. Dans l'ancienne capitale des Gaules, les Gilets jaunes se sont joints aux écologistes. Plusieurs dizaines d'entre eux ont manifesté à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy, en banlieue de Paris, pour dénoncer la privatisation. Colère, mais aussi lassitude. Ils étaient beaucoup moins nombreux qu'à la marche traditionnelle de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai, organisée par les syndicats. Des comédiennes comme Julienne Binoche ou Emmanuel Béard, des écrivains comme Édouard Louis ou Annie Henault, ainsi que 1400 autres acteurs du monde de la culture ont apporté samedi leur soutien au mouvement des Gilets jaunes. Et je vous rappelle que Mme Marine Le Pen est en nette progression dans les sondages pour les prochaines élections européennes. Lors de mon récent passage en France, j'étais surpris de voir tant de trottinettes électriques partout dans les rues de Paris. Vrai danger public à mon avis. Problème, leur circulation n'étant pas réglementée, les accidents et les incivilités se multiplient. Une situation que le gouvernement a finalement décidé de prendre en main hier après des appels et des cris d'alarme des citoyens. Il était temps. Sport, la championne sud-africaine Caster Semenya exclue de la compétition, trop puissante. 1er mai 2019, le tribunal arbitral du sport a rejeté le recours de la double championne olympique dont le corps sécrète naturellement un taux de testostérone plus élevé que la moyenne et qui refuse de le faire baisser artificiellement. Retour sur une décision discriminante. Plusieurs femmes crient scandale, la toile s'enflamme, je cite, ce que je subis actuellement, ou ce que subit actuellement Caster Semenya, d'après une internaute, en plus du racisme et de la misogynie, c'est aussi de l'intersexophobie caractérisée. Subir une invalidation de son corps sexué, car pas dans les standards binaires, classiques, féminins, masculins, c'est être intersexes. Au Cameroun, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira le 13 mai prochain sur la crise anglophone. En Algérie, à peine élu à la tête du FLN, Mohamed Djemaï est déjà contesté. Ebola en RDC, vraie crise, le cap de 1000 morts franchi, l'inquiétude redouble. Enquête de France Info, en France bien sûr, on s'est fait avoir, déçus, des parents retirent leurs enfants des écoles Montessori. Et en dernière heure, en Algérie, Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président, est considéré comme le véritable homme fort du palais présidentiel depuis l'accident vasculaire cérébral. A été arrêté samedi, ainsi que deux anciens hauts responsables du renseignement, selon une source, un jour après de nouvelles manifestations massives contre le pouvoir en Algérie. Et encore une fois, je vous rappelle, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Une émission spéciale est prévue pour le dimanche 19 mai. Parmi les sujets abordés, comment mieux intégrer les personnes trans en milieu de travail? Vous avez un témoignage à partager, une stratégie ou des commentaires? Veuillez nous contacter avant le 16 mai prochain, popourri@cut.fm. Et oui, dans un instant, nous allons passer à notre invité du jour, Monsieur Carole Jelin. Mais d'abord, début mai 2019, le rêve de Doug Ford de se débarrasser du commissaire Boileau et d'éliminer le commissariat au service en français après 11 ans s'est réalisé. Un mensonge de plus, et oui, malgré l'assurance de ne pas couper des postes, trois postes ont été abolis. Changement majeur pour les franco-ontariens dans la façon d'écouter les doléances des plaintes des francophones. En 11 ans, les recommandations faites par le commissariat ont été nombreuses et variées. Leur concrétisation et impact direct sont cependant difficilement quantifiables. Et oui, tout au long des 11 années, Maître Boileau n'a cessé de donner des pistes pour dynamiser l'immigration francophone dans ses rapports, force et d'admettre que la cible de 5% d'immigrants francophones adoptée par le gouvernement de l'Ontario en 2012 ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Il y a problème. Les observateurs s'accordent cependant pour dire que le commissariat était plus qu'un bureau des plaintes, citant ses études, ses rapports comme des outils qui ont permis de mieux identifier les problèmes relatifs aux services en français. Avec tout mon respect à Maître Boileau, je dois vous avouer que mes expériences à travers l'Ontario, depuis plus de 40 ans bientôt, démontrent que le commissaire, son personnel, malheureusement, n'ont pu, avec succès, créer des liens, jeter des ponts avec cette majorité silencieuse, y compris des fonctionnaires, eh oui, retentissants, récalcitrants, et j'ajouterai même anti-francophones qui faisaient tout en leur pouvoir pour saboter toute politique favorisant des services de qualité aux francophones. Pour certains, les francophones sont un groupe minoritaire, chiffre insignifiant, comparable aux autres groupes. Et je cite, certains qualifient des francophones comme un groupe ethnique. Et surtout que ça coûte les yeux de la tête pour servir les francophones. Combien de fonctionnaires sont au courant des réalités des franco-ontariens? Malgré les excellents rapports, recommandations publiées dans les deux langues officielles sur le site du commissariat, très beau travail d'ailleurs, les organismes, les fonctionnaires ne voyaient que l'aspect législatif de la loi sur les services en français adoptée à l'unanimité le 18 novembre 1986. Selon plusieurs auditeurs et têtes d'affiche francophones à Ottawa, Sudbury, Toronto, les gens sont extrêmement déçus, frustrés même, disent certains. Promesses non tenues de ce gouvernement avec des compressions en avalanche dans plusieurs secteurs affectant la vie de milliers de groupes les plus vulnérables de cette province, y compris les autochtones durement touchés. Beaucoup baissent les bras et ne comprennent pas clairement les stratégies de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Est-ce que notre prochain invité peut-il alléger les craintes de ces francophones qui sont inquiets, des personnes âgées, des immigrants, des jeunes, des personnes vivant avec le VIH? Dans un instant, M. Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, à bon entendeur, salut! Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
L'insécurité linguistique, c'est... Ça peut des fois être le fait d'avoir ta langue maternelle, que ce soit la langue maternelle, le français, ou de l'avoir appris pratiquement toute ta vie. Mais c'est le fait de pas se sentir compétent ou compétente nécessairement dans l'application, finalement, du fait de parler la langue.
Cavalier aux dames, attention, avancez pour garder la paix, commencez. Cavalier aux dames, attention, avancez pour garder la paix, commencez.
Eh oui, bonne fête à Kassav, madame, monsieur. C'est tout un anniversaire. 40 ans que Kassav nous font zouker. Et pour nous aider à zouker encore pour une autre année, eh ben, toute la radio de CUTFM vous invite à être partenaire, renouveler votre adhésion. Et cette année, plus que jamais, nous avons besoin de vous parce que nous avons connu, nous aussi, des coupures dans nos budgets. Allez, du 6 au 12 mai, soyez des nôtres. Allez sur le site www.cut.fm/donate. Et le Grand Prix, un voyage en Croatie. Dépaysement, authenticité, carrefour de culture et d'influence assez exceptionnel. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde depuis 33 ans déjà. Avec Kassav, on y va.
C'est comme ça.
À la mémoire de nos ancêtres.
Le grand débat, le grand sujet du jour, la vie après la mort. C'est en ces termes qu'une auditrice, une retraitée, figure de proue dans la francophonie torontoise et francophonie ontarienne, membre de notre émission depuis plus de 20 ans, qui connaît sans doute notre invité, M. Carole Jolin, et bien elle a qualifié les événements que nous venons de vivre ces derniers temps de catastrophiques. La vie après la mort. Après, avec la fin du projet de création de l'Université de l'Ontario français, avec l'élimination du commissariat aux services en français et le renvoi de 3 de ses employés autres mensonges de ce gouvernement. Et en plus de ça, ajouter toutes les autres mesures extrêmement négatives, pour ne pas dire dangereuses, en train de sabrer dans les programmes, les services essentiels. L'heure doit être à la mobilisation. Cette même auditrice joint sa voix à celle de 38 autres auditeurs qui exigent, et je cite, « il faut se rallier, se mobiliser, aller au fond des choses et peut-être même traduire ce gouvernement en justice. C'est épouvantable et aberrant selon certains. » Et oui, certaines sources et beaucoup de francophones sont très déçus de la performance de la ministre des Affaires francophones, Madame Caroline Mulroney. Avec le peu d'appétit à revigorer la loi sur les langues officielles, la politique trompe-œil sur l'immigration francophone en Ontario, ajoutez à tout ça les casse-têtes, les scandales, les soubresauts et la mauvaise presse ciblant un certain organisme desservant les immigrants francophones en Ontario, organisme qui est d'ailleurs actuellement sous les feux des projecteurs des bailleurs de fonds, tout ça n'aide pas à l'image, à la cause des franco-ontariens. Mauvais timing, me diriez-vous? Quelles sont les stratégies de l'Assemblée de la francophonie? Organisme représentant près de 700 000 francophones en Ontario, quels sont les plans de ralliement avec les francophones partout au pays et aussi les pays à l'extérieur du Canada, les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie? Eh oui, on parle de plus en plus de l'Ontario, j'en sais quelque chose. De la mobilisation à la résistance, quel est le plan de match de l'AFO et son président, Monsieur Carole Jolin? Et question clé que je répète depuis plus de 30 ans à cette antenne, que font explicitement tous ces organismes francophones qui reçoivent des fonds des gouvernements pour desservir la clientèle francophone et particulièrement les personnes âgées, les patients, les immigrants francophones? Que font-ils exactement pour revigorer leur plan de travail, leur plan d'action afin d'augmenter, d'attirer une plus grande clientèle? Il semble qu'il y a une panne d'idées chez certains. Peut-être je me trompe. La vie après la mort ou ce n'est qu'une crevaison d'un pneu? Y a-t-il une roue de secours? Peut-être notre grand invité de ce dimanche, ancien président de l'AEFO, ancien enseignant, président actuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, peut-être il nous apprendra à installer une roue de secours en toute sécurité. Ah oui, c'est toujours un plaisir, un grand plaisir de l'accueillir à nos micros. Il répond toujours présent, hein, Monsieur Carole Jolin, bonjour.
Bonjour.
Et bon dimanche.
Bon dimanche à vous.
Comment est le moral après cette journée désastreuse du 1er mai, la fermeture du commissariat au service en français?
Bien, écoutez, il faut continuer, on n'a pas le choix. Mmh. Et puis, dans ce sens-là, c'est certain que le 1er mai marquait une date qui est bien triste pour la francophonie, parce que c'est une de nos institutions qui se voit diminuer de ses pouvoirs, du travail qu'elle peut faire pour les francophones. Mmh. Cependant, on a rencontré M. Dubé, l'Ombudsman de l'Ontario, il y a quelques semaines. Et puis, je veux dire, la rencontre s'est bien déroulée. On a parlé d'une approche collaborative entre les deux organisations, parce que lui aussi n'a pas vu venir cette situation-là. Ça lui a été imposé par le gouvernement. Et puis, la discussion qu'on a eue avec lui était surtout au niveau du mandat que le commissaire adjoint aura sous ses ordres. Et puis, de ça, je dirais qu'on a été un petit peu... je dirais pas rassuré, mais content d'entendre ce que l'Ombudsman avait à nous dire, dans le sens qu'au niveau du mandat du commissaire adjoint, il aura ni plus ni moins les mêmes tâches que M. Boileau avait au niveau de la proactivité du commissariat lui-même.
Et c'est là que ça crée une certaine confusion, vous allez admettre, je joue un peu à l'avocat du diable, permettez-moi, mais il y a des francophones qui sont des mêmes ex-fonctionnaires qui me disent, mais pourquoi enlever justement M. Boileau de son poste? Peut-être on aurait pu négocier sur la façon de retravailler le budget, d'ailleurs lui-même il l'a dit à des médias, mais pourquoi enlever complètement la commission et maintenant on refait le même schéma que M. Boileau avait?
Ça, c'est une bonne question. Puis il y a plusieurs réponses qui sont possibles, mais c'est le gouvernement qui... Ce serait au gouvernement de répondre à celle-là et de dire, évidemment, que ça n'avait rien à faire avec des économies, quoi qu'ils ont coupé des postes.
Mm-hmm.
Et puis, de ça, si on voit, par exemple, le service de la paix, le service de la technologie qui était à contrat pour le commissariat, maintenant, évidemment, ça va embarquer sous l'égide de l'Ombudsman, qui a déjà son équipe de technologie pour s'occuper du matériel informatique, qui a déjà son service de la paix. Il y a quelques économies qui vont aller chercher là. Il y a des postes qui ont été coupés, même si on nous avait dit que tous les employés seraient transférés. Puis ça, on l'a dénoncé vivement il y a quelques semaines. Lorsque ces annonces
ont été faites. Mais ce gouvernement ment, c'est pas possible. On avait dit les mêmes choses pour les enseignants, les enseignantes, vous vous souvenez? Et maintenant, ils essaient de retrouver d'autres budgets pour s'assurer que personne soit mis à pied. Donc, il y a toujours ces petits mensonges. Comment faire pour justement rendre ce gouvernement redevable aux Ontariens?
Mais du côté des enseignants, il faut faire attention, parce qu'à chaque année, à cette époque-là, il y a des billets roses qui sont envoyés aux enseignants parce qu'il y a de l'incertitude au niveau du financement.
Mm-hmm.
Et puis, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et comme cette année, le gouvernement a retardé encore davantage le moment où il va dire aux conseils scolaires combien d'argent ils vont avoir, ça va obliger les conseils scolaires à faire davantage de ces billets roses-là pour dire aux enseignants, vous n'avez plus d'emploi l'année prochaine. Et après ça, il y a toujours des rappels massifs qui se font une fois que les conseils scolaires savent exactement quelles sont leurs ressources financières. Mais si on parle de postes qui vont être des postes qu'on ne reverra pas, ben, ce sont les postes des gens qui partent à la retraite et qu'on ne remplace pas. Donc ça veut dire que il faut s'attendre à des classes beaucoup plus grandes au niveau du secondaire, par exemple. On a déjà parlé que le nombre d'élèves allait monter dans les classes. Au niveau des ressources, est-ce que les ressources seront toujours là? Est-ce que le personnel qui permet d'appuyer toute la machine des enseignants et des enseignantes sera là? Ça aussi, on peut s'attendre à des coupures importantes de ce côté-là. Et d'ailleurs, on a vu les syndicats de l'enseignement se mobiliser dernièrement, et il y a toutes sortes de campagnes qui sont en branle dans le moment.
Il y a un journaliste Ottawa Citizen qui fait un travail extraordinaire pour explorer les vrais, les faux, tous les messages de ce gouvernement, et il faut vraiment lire ces articles que je vais reprendre dans les mois à venir, dans les semaines à venir, parce que justement, il faut comparer à ce que ces gens ont dit lors de la campagne électorale, et puis une fois qu'ils sont au pouvoir, ils sont en train de faire autre chose. Ce sont, il me semble, des bombes à retardement là, dans certaines décisions, parce que quand on parle de la qualité de l'eau, la qualité des soins en santé, là aussi, cette transformation structurelle des soins de santé, j'ai bien peur que les Franco-Ontariens vont en perdre, vont être dilués, leurs besoins spécifiques, distincts, vont être dilués dans ces transformations. Parlez-nous un petit peu de votre relation, votre rencontre avec M. Paul Dubé. Vous semblez nous dire que vous êtes assez satisfait de cette rencontre parce qu'il vous a donné une certaine réponse qui peut convenir pour l'instant. Mais allez-vous suivre de près ses actions dans les semaines et les mois à venir? Surtout, je sais que votre stratégie, c'est de demander, d'exiger à des francophones qui ont des plaintes à émettre, d'envoyer leurs plaintes. Alors, vous allez nous parler de tout ça. Mais est-ce que, si jamais il ne répond pas à vos attentes, aux attentes des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes, quelle est votre porte de sortie ou votre roue de secours?
Bien, dans un premier temps, je pense qu'il faut mentionner que le personnel qui était au commissariat, qui faisait les enquêtes lorsqu'il y avait des plaintes, demeure le même, est transféré à l'Ombudsman, mais c'est le même personnel qui est là et qui va continuer à travailler sur ces enquêtes-là. Et puis ça, c'est... évidemment, c'est ce qu'on nous avait dit depuis le début. C'est pas la partie qui m'inquiète, pour être honnête. Mm-hmm. La question de la proactivité m'inquiétait beaucoup. C'est pour ça qu'on avait plusieurs questions pour l'Ombudsman, à savoir est-ce que cette personne-là qui va être le commissaire adjoint va continuer à travailler avec les ministères pour leur rappeler de leur responsabilité envers les services en français. Il nous a dit oui. Est-ce que le commissaire adjoint sera aussi visible dans la communauté que M. Boileau l'était pour faire la promotion des services en français? Il nous a dit oui. Est-ce qu'il pourra produire des rapports spéciaux autres que son rapport annuel? On nous a dit oui. Est-ce qu'il pourra être impliqué dans les politiques publiques comme M. Boileau l'était? Parce qu'on sait que M. Oui. Boileau a travaillé et son équipe ont travaillé de façon très intensive au document de la réforme sur la santé. Il nous a dit oui. Donc, dans ce sens-là, nous autres, il va falloir être vigilants pour Exactement. S'assurer que, un, ces choses-là se font. Et ce qu'on a perdu en perdant l'indépendance du commissariat à ce stade-ci, si je fais abstraction de la proactivité qui semble qu'il va être là, ben, c'est la question du budget, c'est la question des ressources humaines. Mm-hmm. Et puis là, on a un ombudsman avec qui on va travailler qui nous semble favorable. Monsieur Dubé, s'exprime très, très bien français et puis comprend très, très bien nos enjeux. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans 2 ans, il n'y aura pas un changement et que ce changement-là pourrait amener une personne qui aurait une philosophie et une vision tout à fait différente de ce qu'on a présentement? C'est le danger.
Oui. Vous savez que les gens suivent de très près l'approche de Mme Caroline Mulroney, que je respecte entièrement, mais... On dirait qu'elle manque d'épines dorsales pour parler aux francophones. C'est des petits messages à la sauvette, par-ci, par-là. Ils jouent beaucoup sur Facebook, sur les messages dans les réseaux sociaux. Mais ils ne donnent pas assez accès, je trouve, à des francophones, à des organismes. Elle ne descend pas dans la communauté francophone pour aller les rencontrer, écouter leurs doléances. C'est sûr qu'elle ne pourra pas faire tout ce que vous exigez, vous attendez de Mme Mulroney et de ce gouvernement, mais au moins créer des ponts, des liens. Et donc, vous comprenez un peu la frustration de ces auditeurs qui nous envoyaient des lettres. Et d'ailleurs, les gens vous écoutent, même de Los Angeles. Je viens de recevoir un message. Non, mais c'était incroyable. Alors, donc, peut-être que je devrais me déménager à Miami ou Los Angeles. Alors, donc, est-ce que, justement... Il y a moyen de, je ne sais pas, on ne peut pas faire sortir de l'eau d'une pierre, d'un roc, mais qu'est-ce que Mme Mulroney pourrait faire d'après vous? Est-ce que vous êtes satisfait de sa performance jusqu'à présent?
Ben, je pense que c'est important que le ministère des Affaires francophones soit plus présent dans la communauté. Il me semble qu'on n'a pas vu beaucoup Mme Mulroney à des événements francophones. Je pense que c'est important que comme ministre, elle vienne voir les gens davantage, qu'elle vienne parler aux organisations. Et puis ça, c'est pas simplement l'Assemblée de la francophonie. On a quelques 200 organisations membres. Mm-hmm. La plupart, la très, très grande majorité du niveau communautaire, où est-ce qu'on a des défis dans le domaine des services en français et puis de pouvoir justement être capable de travailler pour faire vibrer notre communauté francophone. Donc, je pense que c'est important qu'elle soit davantage disponible pour venir rencontrer les francophones, pour venir parler avec nous autres, comprendre l'enjeu de chacune des décisions qui sont prises et voir justement comment on peut remédier à des situations comme on en a vu.
Elle n'a pas hésité à envoyer une petite pierre dans votre jardin quand vous avez reçu l'appui financier du gouvernement fédéral pour la résistance. Et ça vous a fait mal?
Bien, écoutez, nous, c'est sûr qu'on allait faire de demande parce que notre bureau à l'Assemblée de la francophonie, c'est officiel que déjà tous nos employés travaillaient à 100% à plein régime et puis d'avoir l'ajout d'un événement et d'avoir à mettre sur pied la résistance, c'est officiel qu'on avait besoin. On avait besoin de personnel, on avait besoin d'aide supplémentaire et puis ça, bien, ça se fait pas tout avec du bénévolat aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, nous, on a fait la demande et le gouvernement fédéral a acquiescé. Et puis, je peux comprendre le point de vue de Mme Mulroney, mais nous, pour être capable de faire le travail qu'on a fait avec la résistance, c'est officiel qu'on devait On avait besoin d'aide, d'une aide financière et le gouvernement fédéral a acquiescé à notre demande. Mmh.
La personne de Los Angeles nous écoute et apprécie beaucoup votre intervention ce matin et aime ce que vous dites en ce moment sur M. Paul Dubé et Mme Mulroney. Alors, vous voyez, les gens nous suivent de très
oui,
près.
Oui, super intéressant.
J'adore. Alors, donc, il y a aussi un autre problème, c'est que M. Fraser, l'ex-commissaire des langues officielles au niveau fédéral, regrette le manque de volonté de M. Trudeau face à cette réorganisation-là de la loi la loi sur les langues officielles, voilà, 50 ans déjà, on est en train de faire des consultations, mais il regrette que M. Trudeau soit assez timide dans ce dossier.
Ben, le gouvernement fédéral s'est déjà engagé, puis c'est certain que c'est pas quelque chose qui va se faire dans l'espace de 7 ou 8 mois. Là. L'étude et les changements proposés pour pouvoir moderniser la loi sur les langues officielles. C'est un long processus que le gouvernement fédéral a lancé il y a à peu près, c'était au mois de novembre, si je me rappelle bien. Ça fait déjà un moment qu'on en parlait. Et puis, ça va être un enjeu électoral. C'est un enjeu électoral, mais tous les partis sont d'avis que oui, il faut aller de l'avant dans cette direction-là. Donc, ça ne sera pas un gros enjeu si tout le monde est d'accord que, peu importe qui formera le prochain gouvernement, la loi sur les langues officielles doit y avoir une réforme. Maintenant, du côté de nos organisations, l'Assemblée de la francophonie est membre de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, donc notre organisme national, et nous avons engagé une firme d'avocats pour, ni plus ni moins, écrire la loi dans le langage légal comme on voudrait l'avoir. Donc, dans ce sens-là, nous, on a un document qui va être prêt quelque temps, un petit peu plus tard, là, dans quelques mois, et puis avec lequel nous allons travailler à l'échelle nationale. Donc, toutes les représentations, les consultations qui vont avoir lieu dans les provinces, bien les organisations comme l'Assemblée de la francophonie vont faire la promotion de ce document-là et des changements qu'on aimerait voir apportés à la loi sur les langues officielles.
C'est un dossier épineux, surtout avec les élections au niveau fédéral qui s'en viennent. Je sais qu'il y en a des cibles là contre M. Trudeau, des cibles contre les francophones. On en a vu ça en Alberta, on en a vu ça au Nouveau-Brunswick et dans d'autres provinces. Bon, on pourra en parler longuement. On aura l'occasion de vous inviter à nouveau. Le fédéral qui rate sa cible en immigration francophone, ça c'était un choc ou pas du tout? Vous vous attendiez un peu à cela?
Ben c'était pas un choc dans le sens que toutes les initiatives qui ont été mises de l'avant dans la dernière année ne produiront pas des résultats automatiques. Donc il faut donner le temps à ces nouvelles initiatives là au financement du fédéral, parce que le fédéral a mis 41 millions de dollars dans ça. Il y a toutes sortes d'initiatives qui se sont mises sur pied, donc qui sont en train de se mettre sur pied pour pouvoir justement faire de la promotion, faire de l'accueil. On parle de communauté accueillante. Et puis, dans ce sens-là, il faut donner le temps à toutes ces démarches-là pour que, justement, ça produise. C'est un peu comme si on avait planté des arbres fruitiers, puis dans la première année, on pense que l'arbre va être plein.
Mais ça fait quand même depuis 2012, hein, vous comprenez un peu l'exaspération, l'impatience des organismes communautaires et c'est un tas d'affiches dans la communauté francophone. J'aimerais qu'on parle rapidement de ce symposium national sur la sécurité linguistique, parce que ça, c'est aussi un moment historique. Tout le monde est d'accord pour le dire, au moins les gens à travers le pays se sont réunis. Est-ce que vous y étiez?
Oui, j'y étais. J'y ai assisté.
Dans un instant.
T'es franco-ontarien, mais ça te tente pas de parler en français parce que t'as peur qu'on se moque de ton accent. Je comprends ça. Ici, il y a tout plein d'accents, puis à la longue, ça peut devenir intimidant. Heureusement, t'as besoin d'une seule excuse pour te sortir de tous tes pétrins. L'insécurité linguistique, c'est ton passe-droit pour ne jamais parler en français en Ontario, même à l'école. Oh bon, oublions un instant que parler français est considéré un atout dans la majorité des carrières sur la surface de la planète Terre.
Et oui, voilà une petite publicité pour alimenter notre discussion. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce symposium extraordinaire de 2 jours à Ottawa?
Mais premièrement, c'était un symposium qui était extrêmement intéressant. Beaucoup de discussions très, très riches. On a eu des panels d'experts aussi qui ont fait des présentations. Ce qui est bien, c'est que de toutes les discussions qu'on a eues, c'est qu'il y a, il y a un document qui va être mis sur pied, qui va être ni plus ni moins une stratégie nationale pour contrer l'insécurité linguistique, et puis avec des objectifs très précis. Et moi, j'ai demandé qu'on puisse mesurer ces objectifs-là pour que, justement, on puisse voir le travail qui a été fait, les progrès qui sont faits. Et puis, je peux vous dire, c'est extrêmement intéressant d'entendre des jeunes qui venaient de tous les coins du Canada et puis qui racontaient comment ils vivaient ça dans leur coin de pays où parfois ils sont dans certaines provinces qui sont très, très minoritaires. Et puis de voir quelle est leur perception et puis qu'est-ce qu'ils veulent faire puis pourquoi ils sont fiers et puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire justement pour travailler à contrer l'insécurité linguistique.
Et d'ailleurs, je pense la grande question qui nous revient, parce qu'on reçoit des commentaires, des fois les gens ne veulent pas nécessairement dire à haut voix, enfin publiquement leur nom, mais l'accent est un, que ce soit français, québécois, franco-ontarien, des gens de l'Afrique, des Antilles, c'est ça qui cloche bien souvent. On ne le dit pas, on veut être toujours amadoué, dire bon, on est francophone, tout le monde, on s'entend, le monde est beau et tout le monde, on s'aime. Mais au fond, l'accent, comme on l'a entendu dans ce petit reportage et aussi tout au long de l'émission, on va jouer d'autres instants de reportages comme ça, des expériences. L'accent est un problème majeur. Des fois d'avoir cette bonne compréhension et intégration au niveau du travail, au niveau des relations avec les autres, n'est-ce pas?
Tout à fait d'accord. Je pense que c'est là qu'il faut... On a un pas en avant à faire dans cette direction-là, dans le sens où je regarde un peu la philosophie à l'Assemblée de la francophonie, puis ça, je l'ai dit souvent, on a une francophonie de toutes les couleurs et de tous les accents. Et puis de ça... dans la stratégie, je pense que c'est important de valoriser, de faire la promotion de nos accents. Et dans ce sens-là, d'amener les gens à être confortables avec leur accent. Moi, je dis l'accent, il faut le valoriser et puis il faut l'apprécier. Et ça fait partie de toutes les couleurs et de tous les accents de notre francophonie. Donc, dans ce sens-là, on a du travail à faire. Je pense que ça va être un élément important du rapport qui va sortir, probablement aider stratégie à comment y parvenir. Et d'amener les gens non seulement on dit qu'on veut voir de l'offre active dans les commerces, par exemple, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on demande des services. Je pense que c'est important d'amener les gens à faire de la demande active. Donc, pour ça, il faut que les gens se sentent bien dans leur peau, soient confortables et n'aient pas peur de le faire, peu importe leur accent.
J'ai lu au début de l'émission que, selon un sondage, une étude récemment à Montréal, il y a plus de 60% des commerçants, enfin des clients qui font affaire avec des commerçants qui s'en foutent comme l'an 40 si on leur dit « hi » ou bien « bonjour ». Ça leur fait ni chaud ni froid. Alors, c'est un peu dangereux si on vit dans une ville comme Montréal, le Québec, qui est reconnu à travers le monde comme bastion francophone en Amérique du Nord, et qu'on laisse aller à la dérive la langue anglaise pour empiéter sur les droits des francophones, je trouve que c'est assez désolant, n'est-ce pas?
Ben, je pense que la situation du Québec est un petit peu différente de la nôtre ici en Ontario, mais ce que je dis, moi, quand il est question de commerce, je me dis, ben, le portefeuille, c'est dans mes poches à moi qu'il est. Et j'ai un pouvoir économique. Et si je ne peux pas être servi ou j'ai cette attitude-là derrière le comptoir, je peux vous garantir qu'ils ne me reverront pas. Et ça me fait plaisir de leur dire aussi. Ça, c'est moi, évidemment. Là.
Oui.
Mais dans ce sens-là, c'est de voir de quelle façon, entre, par exemple, hors Québec, donc les francophones, c'est de demander les services en français, c'est de faire la demande active et c'est de valoriser quand on a ce service-là. Oui. Moi, je sais pas combien de places je l'ai fait, ou est-ce que j'ai même convaincu une serveuse à Toronto qui étudie en immersion d'offrir le service dans les deux langues, parce que j'ai dit, tes clients vont être contents. Si tes clients sont contents, j'ai dit, le pourboire va être meilleur à l'autre bout.
Vous savez, dans tous les restaurants qui font affaire avec nous, les bistrots, tout ça, ben maintenant, ils ont de la musique francophone dans leur bistrot, dans leur restaurant, et ça marche. Personne ne critique. Oh. Écoutez, il y a tellement de choses que j'aimerais vous parler, entre autres, ma dernière visite en Europe, on a parlé de l'Ontario en France, parce que justement, avec la crise linguistique depuis le mois de novembre dernier, mais il y a quelqu'un qui veut absolument que je vous pose cette question. Demandez à M. Jolin comment peut-il prétendre qu'il ne se doutait rien concernant l'affaire de la passerelle, car son directeur le savait. Pourquoi ont-ils malgré tout donné un contrat à la passerelle?
Ça, c'est les allégations qu'on a retrouvées dans les journaux à ce moment-là. Nous ne savions, personne ne savait que ces articles-là allaient sortir pour un. Puis encore là, c'est sous enquête et puis on va laisser les enquêteurs faire leur travail. Mais à ce moment-là, il y avait le contrat qu'on a donné à la passerelle pour faire le travail pour nous autres. Ça remonte déjà à un an de ça. Donc, ça fait déjà un bon moment que le timing ou la synchro de tout ça ne va pas du tout ensemble. Et puis, dans ce sens-là, Mme Chattat a fait un excellent travail pour nous. Elle nous a produit un rapport avec lequel on va travailler. Mais c'est après même le dépôt du rapport, parce que le rapport a été déposé en octobre.
Donc, pour l'instant, elle n'a pas de contrat, la passerelle n'a pas de contrat au moment où on se parle avec l'AFO.
Non, le contrat qu'on a donné, c'est pour faire une enquête au niveau des communautés multiraciales et ethniques pour voir comment l'AFO pouvait mieux les servir. Et ce contrat-là, elle a fait l'enquête le printemps. C'était au printemps passé.
Et ce sera public? Est-ce que c'est possible d'avoir quelques grandes lignes des recommandations de ce rapport? Je sais, le temps passe, d'accord. On me dit qu'il faut partir.
Oui, bon, si je peux vous dire, une des grandes lignes qui est sortie, puis probablement une des plus importantes, c'est de pouvoir avoir une table de concertation où est-ce qu'on puisse parler, justement, amener toutes les communautés autour de la table et pouvoir se parler et se concerter surtout.
Oui, écoutez, monsieur, voilà, tout le monde vous applaudit. On vous remercie beaucoup, monsieur Jolin, pour votre courage, pour tout votre travail. Vous direz le bonjour à tout votre personnel aussi. Continuez dans votre mobilisation, dans votre résistance. On est de tout cœur avec vous. Passez un bon dimanche et bonne journée.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
Toujours les mêmes airs, Hollande, Belgique, France, austère, gauche ou libéraux, avant-centre ou centriste, ça m'est égal, tous aussi démagos que des artistes.
Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense que si, quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies, pas si surprenant qu'on soit mal poli, donc vas-y, follow ma folie, ma folie.
C'est devenir un jeune cadre dynamique. J'ai toujours été qu'un jeune saisi qui panique. C'est marqué sur nos actes de naissance en Italie. On a tous un pied dans l'hôpital psychiatrique. La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons. Depuis quand je suis dans les ondes de monsieur tout le monde. La ville dans les oreilles, la fumée dans les poumons. Du mouton, du mouton, du mouton, du mouton.
Pardonnez mon petit langage. Oups, la début du 10 ans d'âge. Les médias votre autant d'âge. Vous m'avez fait pour un esclave. Repoussez l'heure du taf. Pour qu'à limiter la casse. Cette demande à être sale. On va tous unir au cash.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Say yes to your campus and community radio station, CIUT FM 89.5, by making your financial donation right now at CIUT.FM. In doing so, you will help us get off to a great start before the on-air fundraising begins on May the 6th. Your financial donation helps ensure that we continue to deliver the wide and diverse programming you have become accustomed to. All donors will have their name entered into the grand prize draw, a trip for two to Dubrovnik, Croatia, located on the beautiful Adriatic Sea. Please donate now. Say yes to CIUTFM 89.5, delivering the sound of your city every day.
CIUT 89.5, Toronto.
Florent Guignard.
Le rappel des principales informations à la mi-journée. Deux nouvelles victimes palestiniennes dans la bande de Gaza. 6 Palestiniens en tout ont été tués depuis hier dans des raids de l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné une intensification des frappes et l'envoi de chars autour de la bande de Gaza. Il s'agit de la riposte aux centaines de roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas et le djihad islamique. Un Israélien a été tué la nuit dernière par l'une de ces roquettes. Le véhicule des deux touristes français et de leur guide portés disparus au Bénin a été retrouvé. Les recherches se poursuivent dans le parc national de la Pendjari au nord du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. C'est mercredi que leur disparition a été signalée. Second tour de l'élection présidentielle en Macédoine du Nord. Aujourd'hui, au premier tour, le président sortant et la candidate de la droite nationaliste étaient au coude à coude. Le pape est arrivé en Bulgarie, visite de deux jours dans un pays où la plupart des chrétiens ne sont pas catholiques mais orthodoxes. L'église orthodoxe bulgare a d'ailleurs réservé un accueil à minima au pape François. On vient de l'apprendre, une touriste allemande est morte en Corse. Elle a été emportée par des vagues alors que l'île de Beauté subit des intempéries et des vents violents. Le foot avec le départ de Franck Ribéry du Bayern de Munich. Son contrat arrive à terme en fin de saison. Franck Ribéry a aujourd'hui 36 ans. Et puis en France, la fin de saison laborieuse du Paris Saint-Germain pour la 35e journée du championnat. Hier, les Parisiens n'ont fait qu'un match nul, un partout face à Nice.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
C'était tout un spectacle, tout un gala de voir tous ces artistes, ces musiciens, ces chanteurs, ces chanteuses, auteurs, compositeurs, des gens qui vibrent, qui nous font vibrer aussi par la musique, par la culture, par leurs œuvres, leur art. Et oui, c'était le gala de Trior édition 2019 dans l'Est de l'Ontario. Très beau succès d'ailleurs, retransmis sur Unis TV. Et sur Facebook, Yao, notre cher ami de l'Afrique francophone, de la Côte d'Ivoire, qui vit à Ottawa, dans la région d'Ottawa, Gatineau, je ne sais plus. Mais enfin, il nous écoute en ce moment et on veut qu'il se repose. Il est sorti grand gagnant, grand vainqueur. Combien? 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de trophées, mais enfin, bravo. Cindy Douard et McLean, ce sont quelques voix que nous avons choisies pour vous, nos coups de cœur, mais il y en a d'autres aussi. Alors, ce sont nos coups de cœur qui se distinguent parmi les nombreux gagnants. Des flèches bien placées au gouvernement Ford, qui, comme vous le savez, est en train de sabrer dans tout ce qui est culture, éducation, les bibliothèques. Mais où, jusqu'où ça va aller, madame, monsieur, je ne sais plus. Je suis vraiment déçu de vivre en Ontario aujourd'hui, de vivre en français en Ontario. Je veux partir. Est-ce que... Où est-elle? C'est elle qui est à Los Angeles. Marceline. Elle est en train de nous écouter. Et Marcel, est-ce qu'il y a de la place dans votre valise, quelque part, à Palm Springs ou encore Los Angeles? Ou en France, je sais que vous irez en France. Alors, écrivez-moi. Non, je suis un peu déçu de voir ce qui se passe ici. Alors, et puis aussi, c'est de voir la simple mention du nom du Premier ministre, Doug Ford,
a suscité une vague de huées dans la salle. Ok, on peut ne pas aimer ses politiques, mais avoir une guillotine sur la pelouse de Queen's Park, le Parlement ontarien, et crier à la Révolution française, je trouve que là, on va un peu trop loin. Hein? Oui, mais il y a l'autre, là, la Maison-Blanche, qui est fâchée contre Twitter et aussi Facebook, parce que pourquoi avez-vous enlevé le nom de ces conservateurs? Eh oui, quelle histoire. Eh oui, il faut suivre l'actualité, madame, monsieur. Vous voyez, je pense que les gens n'étaient pas au courant pour qui ils votaient l'année dernière. Et maintenant, tout le monde, dans les grands rancards, et puis tout le monde est en train d'être déboussolé par ce qui se passe en Ontario. Mais attendez-vous, on me dit que peut-être M. Trudeau ne sera pas élu à la fin de l'année. C'est à suivre. Alors, on est prêt, on va aller à Yao avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Ce monsieur, il nous fait honneur, 10e gala des prix Trior, qui a récompensé jeudi soir divers artistes de la chanson franco-canadienne dans une dizaine de catégories au centre Shackman d'Orléans, municipalité à haute teneur francophone dans le Grand Ottawa, capitale fédérale du Canada, si vous ne saviez pas. On l'appelle l'Ottavien Yao. S'est démarqué avec une récolte de 3 trophées, alors que Cindy Duard, McLean, Lera de Swamp, que vous entendez en ce moment, que j'adore aussi, et quelques autres artistes sont aussi repartis avec des statuettes et un sourire de fierté bien accroché au visage. La grande question que j'ai pour vous, allez, écrivez-nous, popourri@cut.fm, est-ce que ces artistes canadiens, francophones, ont leur place ailleurs au Canada, en Afrique, francophone, en Europe, au Québec? C'est ça ma question. C'est la même chose pour les écrivains, les maisons d'édition. Pourquoi ça bloque? C'est la qualité de leur écriture, leur texte ne passe pas, leur accent peut-être. Allez, écrivez-nous, madame, monsieur. Est-ce qu'il y a un avenir pour les artistes, les écrivains franco-ontariens dans le monde? Popourri@cut.fm. Place à Yao. Dis-moi que tu m'aimes encore. Mettant en vedette Alan Prater. Yao, dis-moi tout.
Ça fait du temps, l'hebdomadaire, le curier, la tête se perd. Je n'ai rien dit pour quand j'aurais tout dit, quand j'aurais juste écrit, c'est le monde à l'envers. Soit il est fou ou fanatique, à peut-être loup. La rhétorique, la démagogie, les paroles, ça pique. Tu fais le sage, la messie, la théorie double vie, ou d'une vie après la mort. À qui le meilleur avis? Lequel de nous deux a tort? J'ai de l'entrée dans les veines, et bientôt qu'une seule envie, que tout ça se dit, ça saigne, qu'on aille tous au paradis. Dis-moi, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Faut pourrir des idées où j'ai du mal à voir le goût. Dis-moi, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Aveuglé par tant de bruit, de quoi noyer les ennuis. Le son de traîne, le tir de coup de rien. Faisons semblant que tu vas bien. Préfère te fuir que d'en dire peu. L'ironie est de se dire que ce que l'on a, on ne réalise pas quand le tout est intact et qu'elle ne nous quitte pas. J'ai mis du temps à comprendre que les femmes souvent préfèrent l'entendre. Avide à vouloir le grand A. Entre amour et argent, seul un choix compte. L'on vit longtemps quand on rit. Le visage rempli de rides. Quand ta vie n'a pas de prix, la victime d'un homicide. Du mal à voir le beau. Sur votre chemin, le plaisir, mon stylo, jouit quand tout est bien, qui finit bien. Dis-moi, tu m'aimes encore.
Yao, grand gagnant dans les catégories spectacle, artiste solo, coup de cœur des médias. Bravo, félicitations à Yao. Et notre ami qui nous écoute à Los Angeles doit nous laisser malheureusement pour aller prendre le petit déjeuner avec son âme sœur. Merci beaucoup pour les moments. Ah, je trouve ça formidable, hein. On nous écoute sur Internet à travers la planète. Merci, merci, merci. Et oui, dans un instant, Cindy Douard. Moi, je la connaissais pas tellement, hein. Sa chanson Danse, qui a fait un succès, ça paraît, en Ontario. Elle a gagné dans la catégorie auteur, compositeur, compositrice et artiste solo ou groupe. Alors, depuis le début de sa carrière musicale, il y a une dizaine d'années, la franco-ontarienne Cindy Douard a joué la globe-trotteuse avant de poser ses valises et de s'établir à Toronto. Alors, si tu nous écoutes, viens faire un tour. L'artiste originaire de Timmins a produit son premier album, La Vie en Bleu, en 2007. Elle lance en 2009 son second album, Chapeau de pluie. Et elle est élue découverte de l'année au gala des prix Trior de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique. 2 ans plus tard, Cindy fait paraître un premier opus en anglais, Sticks and Mud. Elle dit, et je cite, « Les langues m'inspirent la beauté des mots, la beauté de devoir retourner à la simplicité de m'exprimer. Quand tu rencontres quelqu'un, puis il n'y a pas de langue en commun, il faut vraiment regarder les yeux, les mains, le corps, puis les émotions, puis on retourne à la simplicité des sons pour pouvoir dire quelque chose de très simple. J'adore tout ça. » On écoute un extrait de sa chanson « Danse ». Cindy Douard, madame, monsieur, une voix à surveiller.
Danse, mon danse, tu ressens pas ma danse. Danse, mon danse, tu ressens. discothèque pas faite.
Alors, nous venons d'entendre Cindy Douar, qui est une des gagnantes dans la catégorie auteur, compositrice, artiste, solo ou groupe. Je vous rappelle que vous entendez en ce moment, ce n'est donc quelques extraits, hein. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Si cela vous aime, si vous aimez plutôt, si cela vous intéresse, qu'est-ce que je raconte? Je reçois beaucoup de messages en même temps, je vous parle. Alors, cessez de me parler, vous me dérangez, vous me dérangez. 10e gala des prix Trior qui a récompensé jeudi dernier divers artistes de la chanson franco-canadienne dans une dizaine de catégories dans la région d'Ottawa. Et la question que je vous pose, c'est un peu coup de gueule, mais je veux aussi vous provoquer, madame, monsieur. Est-ce que ces artistes franco-canadiens ont leur place ailleurs qu'au Canada, par exemple je sais pas, en France, en Belgique, en Suisse, en Roumanie, et l'Afrique francophone qui adore les artistes canadiens. On sait que Céline Dion, par exemple, a des fan clubs à l'île Maurice, l'île de la Réunion, et un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple. Alors, répondez-moi, c'est quoi qui cloche? Pourquoi les écrivains, les artistes franco-ontariens n'ont pas de débouchés, je dis bien de débouchés, sur les marchés étrangers? Voilà, voilà. Le message est simple. Est-ce que c'est leur texte, l'accent, leur qualité d'écriture peut-être? Alors, envoyez-nous un petit message à popourri@cut.fm. Et encore une fois, je vous rappelle, cette année, plus que jamais, on compte sur vous parce que nous sommes dans le rouge avec le gouvernement qui est en train de sabrer dans les fonds de toutes les radios et les médias sur les campus universitaires en Ontario. Donc c'est vraiment un défi énorme. Notre objectif cette année, 100 000 $, madame, monsieur, d'ici jusqu'au 12 mai prochain. Et je remercie beaucoup ceux et celles qui ont déjà envoyé des fonds, même de l'étranger. Merci Lucie. Et je reçois Diane, Janine, Maillard et Julie et Sloane et peut-être d'autres invités avec nous en studio pour nous donner un coup de main, répondre au téléphone, remplir les formulaires, mais aussi passer à la radio avec moi, co-animer l'émission dimanche prochain. Si cela vous tente, envoyez-nous un message immédiatement, popourri@cut.fm. Et cette fois-ci, nous allons avec une autre voix que je viens de découvrir, Melissa Wemet. Elle a gagné dans la catégorie chanson primée. Et la chanson que j'aime bien, c'est « Amour jetable ». C'est sa chanson primée lors du 10e gala des prix Or. Elle est auteure, compositrice, interprète. Melissa fait vibrer ses cordes vocales au rythme du rock depuis plus de 10 ans. Et oui, sa carrière musicale n'a cessé de progresser année après année, tournée après tournée. Forte de nombreuses collaborations, Melissa a, entre autres, réchauffé la foule pour Robert Charlebois, Véronique Dicker, qui ne la connaît pas, Éric Lapointe, Martin Deschamps, les Pornflakes. Les Pornflakes. Vous aimez les Pornflakes? Eh bien, les Pornflakes. C'est un groupe. Et Sylvain Cossette, franco-ontarienne de tête, mélomane de cœur, Melissa s'approprie les scènes, les unes après les autres, mais aussi en français qu'en anglais. Mais pour tout vous dire, d'après elle, le français me tient à cœur parce que c'est mon premier moyen de communication. Et je cite, je crois que c'est important de rester proche de ses racines, de qui on est. Quelque temps après avoir remporté le prix du public à Ontario Pop, Melissa s'est envolée vers l'Asie, qu'elle a parcouru durant une année complète. Inutile de préciser qu'elle n'a plus de frontières, ni terrestres, ni musicales, et que son talent, sa témérité, n'ont quant à eux plus de limites. Hong Kong, Kuala Lumpur, Séoul, rien n'arrête une visionnaire comme elle. Venez constater par vous-même la détermination que possède cet artiste qui s'est donné en spectacle plus de 300 fois en une seule année. Quelqu'un m'envoie un message, me dit « Est-ce que ces artistes franco-canadiens peuvent gagner leur vie ?» Ou Est-ce qu'ils font autre chose dans la vie de tous les jours? Très bonne question. Même chose pour les écrivains. Yao qui dit « On est tous d'identités multiples, alors on fait bien d'arrêter de nous séparer. » Bravo, c'est fort comme thème. Allez, Mélissa Ouellet, Amour jetable, elle est la gagnante dans la catégorie chanson primée. Mélissa Ouellet.
Qu'est-ce que tu crois que moi je crois que l'on s'oubliera? Crois-tu vraiment que je pense encore à toi? Mais où on s'est vu déjà? Sans perdre de pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix. L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue pas comme autrefois. Tu peux baisser les bras. Ni chaud ni froid. Est-ce que tu as vu entre nous? J'ai déjà changé les draps. Mais où on s'est vu déjà? Qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu joues? C'est une partie que tu ne gagneras pas. Tu peux baisser les bras.
Et oui, Mélissa Ouellet, il y a un petit air de Zaz dans sa voix, n'est-ce pas? Un peu. Ouais, j'adore Zaz, d'ailleurs, qui vient de sortir un dernier album. Allez, on finit avec Simon Jutra, alias McLean. Alias Simon Jutra, né à Sudbury, en Ontario, l'auteur, compositeur, interprète, a roulé sa bosse comme guitariste au sein de quelques groupes avant de tenter l'aventure solo en 2013. C'est cette année qu'il donne officiellement le coup d'envoi à son projet McLean, lors du concours Ontario Pop, où il remporte d'ailleurs le prix Petite Vallée en écriture. Et son processus de création, le guitariste classique de formation se plaît à jongler avec les volets littéraires et musicales. Mais d'abord et avant tout, dans quelle catégorie pensez-vous que ce monsieur a été choisi? Eh bien, c'est l'album de l'année. On écoute un extrait.
Le vide
matin. Mais ça veut pas en tout une vie.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
La langue parlée, c'est un art, celui d'une mise en bouche, l'apprentissage d'un rythme, d'une intonation, une musique des mots. Avec nous, pour en parler, Étienne Minungou, comédien, auteur et adaptateur de pièces de théâtre.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
CIUT 89.5 Toronto.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
Et oui, 17 mai, partout dans le monde, journée internationale contre la transphobie, l'homophobie et la biphobie. À l'occasion de la journée internationale contre la transphobie, l'homophobie, la biphobie, Popori Show organisera une émission spéciale dimanche le 19 mai. La discrimination basée sur l'orientation sexuelle est encore, malheureusement, en 2019, un fléau répandu à travers le monde. toutes les personnes, y compris les nouveaux arrivants LGBT, sont les bienvenus à notre émission. Cette émission est spécialement pour vous. Selon des données des Nations Unies, 72 pays criminalisent toujours les relations du même sexe, tandis que seulement 10% des pays dans le monde ont des lois qui protègent contre la discrimination basée sur le genre. C'est pourquoi le Canada doit être un leader plus fort sur la scène internationale. Le Canada doit prendre ce rôle au sérieux. Et un des engagements que devrait prendre le Canada, c'est de sensibiliser les autres pays qui ne sont pas ouverts. Je connais personnellement beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont reçu des menaces de mort ou ont subi de la violence, l'intimidation. Ils ont été menacés que certaines personnes allaient ternir leur réputation. Et pour certains immigrants, c'est pire, des menaces d'emprisonnement s'ils retournent dans leur pays. Pas plus tard que la semaine dernière, des groupes religieux et fanatiques ont entonné des cris, des menaces, des slogans homophobes sur la rue Church et Wellesley au cœur du centre-ville de Toronto dans le village gay. Oui, en 2019, c'est là où nous en sommes, mesdames, messieurs. Quand j'ai partagé cet incident avec une personne très connue ici dans la communauté francophone, elle m'a rétorqué vertement qu'il faut absolument se débarrasser de ces immigrants, de ces membres LGBT. Ils font du tort à nos jeunes et j'appuie les politiques de Doug Ford. Eh oui, je ne vous raconte pas d'histoire. Question, êtes-vous d'accord avec ce genre de rhétorique? Pensez-vous que les médias devraient jouer un rôle plus proactif? Est-ce que c'est le rôle des médias dénoncer ces dérives? Écrivez-nous d'ici le 14 mai, popouré@cut.fm. Rendez-vous le 19 mai, une émission à ne pas rater.
Vous écoutez Popouré Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popouré Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Donc j'espère que les hommes que ça intéresse, et je pense qu'ils sont nombreux, viendront regarder le journal un peu comme les hommes aiment bien regarder dans le trou de la serrure quand il y a une femme qui se déshabille.
Alfred Pellan, le magicien de la couleur, nous quittait il y a 30 ans, le 31 octobre 1988, à l'âge de 82 ans. Le Québec a perdu l'un de ses plus prééminents peintres. Alfred Pellan révolutionnait le monde artistique avec son style surréaliste, coloré et vivant. Le printemps Pellan à Toronto, qui dure jusqu'au 2 juin prochain, à la prestigieuse galerie Thomson Landry, qui présentera dans son Cooperage Space 50 sérigraphies sur papier numérotées et signées du maître québécois, acteur principal de l'émergence du modernisme dans l'art. Alfred Pellan, cette exposition, je vous rappelle, est en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec. Le printemps Pellan à Toronto, à ne pas rater jusqu'au 2 juin prochain. Et dans un instant, nous aurons le plaisir, pour la première fois je pense, d'accueillir Monsieur Sylvain Landry, cofondateur, propriétaire de la galerie Thomson Landry, mais il fait aussi d'autres choses très intéressantes. Il est chanteur d'opéra, il me semble, n'est-ce pas? Sylvain Landry, dans un instant. Okay. Oui, Sylvain Landry qui est cofondateur de la galerie Thompson Landry, Distillery District. Il est chanteur d'opéra et collectionneur d'art. Bonjour Sylvain Landry.
Bonjour, comment allez-vous?
Eh ben, ça fait très bien, c'est la première fois qu'on se parle et j'espère qu'il y aura d'autres belles occasions.
Ben, j'espère bien, maintenant que vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me rejoindre, je vais toujours répondre.
Oui, on va vous enquiquiner, comme on dit, on va vous enquiquiner. Alors, comment vous avez fait? Quel tour de force, de magie avez-vous fait pour avoir cette exposition ici à Toronto? C'est une belle découverte pour nous.
Ben, on va faire un peu d'histoire pour commencer.
Oui.
V'là 15 ans, on a ouvert la Thompson Landry Gallery à Toronto. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une galerie qui est exclusivement dédiée aux meilleurs des peintres contemporains du Québec, mm-hmm. de même qu'aux grands maîtres du Québec. Donc, ça fait 15 ans qu'on a pignon sur rue à la distillerie. Et quand le Musée national des beaux-arts du Québec a commencé à penser... parce qu'il faut on parle d'une exposition, mais il faut pas oublier que c'est d'abord et avant tout une activité aussi de financement pour la fondation du Musée national des beaux-arts. Donc, eux, ils ont dit, on voudrait aller à Toronto, donc l'endroit naturel pour faire cette exposition-là, c'est la Thompson Landry Gallery. Et bien sûr, et vous allez voir ça de plus en plus, il y a une espèce de mixité, en plus de mixité de la forme des genres sur les arts de la scène, dans le monde muséal versus les galeries commerciales. Et on m'a contacté il y a à peu près un an pour me parler du projet. Puis bien sûr, ben écoutez, Alfred Pennant, c'est un artiste qui est tellement important dans l'histoire de la peinture moderne du Québec, que, écoutez, on s'est dit, c'est un maillage naturel, donc on s'est dit pourquoi pas, puis on s'est tout tête devant, on a foncé dans le projet.
Mais alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, pendant les années 1940, il illustre des recueils de poésie et conçoit des costumes et des décors pour le théâtre. Son style prend de la maturité, se développe encore pendant cette période. Le surréalisme l'attire de plus en plus et son imagerie devient plus érotique et ses peintures, aux couleurs toujours saisissantes. Parlez-nous un petit peu justement ce que les gens vont aller découvrir, parce que c'est pas un artiste comme les autres.
Non, c'est pas un artiste comme les autres. Puis il y a deux noms dans cette époque-là au Québec où les peintres de la modernité ont rompu avec la tradition. Il y avait Pellant, il y avait aussi Bordua. Bordua a fait le rejet de la forme complet. Tandis que pour Pellant, c'était important pour lui de garder une certaine iconographie influencée par l'École de Paris. Le gouvernement du Québec l'a envoyé étudier à Paris. Puis c'est pas tant aux Beaux-Arts de Paris qui a appris que se promener dans les galeries et découvrir l'œuvre de Picasso, etc., et tous les maîtres de l'époque. Et l'exposition est divisée en six thèmes. On a parlé, c'est-à-dire les bestiaires, les dessins de théâtre, les couvertures de livres. Écoutez, c'était un gars qui faisait de l'art avec absolument tout. Et il était, pour l'époque, il était, écoutez, probablement 50, 60 ans avant son temps, d'amener son art visuel dans la création de décors, de théâtre, de costumes de théâtre. Écoute, il avait peur de rien et on le voit, excusez l'anglicisme, il est bold, l'utilisation de ses couleurs, de ses formes, des fois ça rappelle un peu le surréalisme de Dali. Écoutez, c'est vraiment quelqu'un à venir découvrir si vous le connaissez pas.
Oui, alors quand même, il faut le faire à cette époque. Et lui, il a osé côtoyer plusieurs de ces artistes les plus connus de l'époque, dont Picasso, Matisse, Derain, Dali, en parcourant l'Europe. Donc, il s'est laissé vraiment imprégner par cet art mondial, je dirais.
Ben, exactement. Puis quand il est revenu au Québec avec ça, vous avez entendu parler au Québec de la Révolution tranquille. Mmh. Tout ça apparaissait à peu près en même temps. Et c'était une révolution au début. Il y a des gens qui sont tombés complètement sur le dos en admiration. Il y a des gens qui ont dit, mais voici, qui ont réagi d'une façon plus violente de l'autre côté. Ils venaient vraiment ébranler les colonnes du temple.
Oui.
Et c'est ce qui en fait un artiste absolument...
Oui, il était un peu révolutionnaire, hein, par exemple, de 1943 à 1952. Pour survivre, il enseigne à l'École des Beaux-Arts de Montréal. Son opposition active au fondement théorique du directeur de l'école pousse ce dernier, Charles Maillard, à démissionner en 1944. L'école devient dès lors plus libérale dans son approche. Donc, l'effet Pélan a vraiment commencé là même, dans les, la communauté, je dirais, de l'enseignement des arts.
Ben exactement, c'est exactement ce que je vous disais. Tout ce que Pélan a touché, tout ce qu'il représente, ça a créé une révolution. Ça a tout chamboulé ce qu'on pensait qu'était de l'art. Il l'a complètement déconstruit, démoli et a ôté toutes ses barrières. Ouais. Et puis, c'est drôle parce que souvent, nous, à la Thompson Landry Gallery, quand la clientèle vient nous voir, puis ils regardent les œuvres des meilleurs des peintres contemporains présents du Québec, les gens ils se disent, mais pourquoi les artistes québécois ont cette espèce de guts-là que souvent les artistes anglophones n'ont pas, ils ont été élevés plus à la mode du groupe des sept, avec la peinture de paysages, beaucoup plus intellectuels. Ils ont dit, comme je disais l'autre jour en conférence de presse à la galerie, quand vous regardez ce qu'il y a présentement sur les murs à la galerie avec les Pélans, vous comprenez. Ces jeunes artistes-là ont grandi avec des gens comme Pélan, comme modèle. Donc, pour eux, c'était la norme. Donc, l'éclatement des formes, l'éclatement des couleurs, l'utilisation des médiamix. Comme je dis souvent, un artiste visuel du Québec, t'as juste à lui dire, ça se fait pas. Il va pas regarder, puis il va trouver une façon de le faire.
Mais moi, j'ai connu des gens, malheureusement, il y en a qui ont quitté ce bas monde, mais qui m'ont raconté cette révolution tranquille, justement, qui a eu un effet extraordinaire dans le domaine artistique. C'était une façon pour les gens, pour les artistes, pour les Québécois, de sortir de ce joug de la religion, de l'Église à l'époque. Mesdames, Messieurs, je suis en compagnie avec Monsieur Sylvain Landry, cofondateur, propriétaire de la galerie Thompson Landry, qui nous donne rendez-vous. Il faut absolument aller voir... Le Printemps Pélan à Toronto, en collaboration avec le Musée national des Beaux-Arts du Québec. Monsieur Sylvain Landry, j'ai une surprise pour vous. Alors, je sais que c'est un peu difficile avec là où vous êtes, mais c'est une des rares entrevues avec Madeleine Polisseno Pélan, sa femme, menée par John Porter à propos de la dimension ludique d'Alfred Pélan. On en écoute un court extrait.
Ça, il aimait ça, c'était une détente pour lui. Parce que souvent la peinture, c'était plus laborieux, parce que s'il allait y aller à fond quand il entreprenait un tableau, là, il allait à fond, comprenez-vous? Et, comme il dit, il se torturait la cervelle des fois. Alors là, quand il faisait des objets comme ça, des sculptures... ludique, hein, une sculpture ludique. Là. Alors, c'était un moment de détente pour lui. Il s'amusait, là.
Eh oui, vos réactions?
Malheureusement, j'entendais pas l'extrait dans mes écouteurs. Mais j'essaie de croire c'est fort. J'ai pas pu entendre ce que la dame disait. Puis c'est frustrant parce que j'aurais tellement ça aimé l'entendre.
Mais
vous l'avez entendu.
Oui.
Donc, il
disait qu'il s'amusait. Il s'amusait. Pour lui, chaque instant, il prenait vraiment. C'était un peu de la magie, hein, pour lui. Et c'est de plaire, mais aussi c'était une façon pour lui d'explorer toujours ses limites, comme vous avez dit au tout début de l'entretien, il aimait aller jusqu'au bout de ses limites pour peut-être provoquer, d'après vous, nos instincts, provoquer le public, provoquer qui, d'après vous?
Ben, je pense que ces grands artistes-là adorent provoquer. C'est jamais d'une façon... nous, on utilise l'expression provocation comme quelque chose d'un peu péjoratif, mais c'est plus pour déranger, pour activer, pour faire réfléchir, pour se faire se questionner. Et dans ce sens-là, oui, Pélan, c'est un grand, grand provocateur parce que, comme je vous disais tantôt, il dérangeait toutes les normes établies et s'amusait à nous présenter des choses, puis de regarder notre réaction, puis après ça, souvent même de s'inspirer de notre réaction pour continuer.
Oui. Parlez-nous un petit peu justement de ces 6 séries distinctes qui sont exposées dans votre galerie.
Écoutez, comme je vous disais, il y a toute l'époque des dessins de théâtre, les bestiaires. Il a fait, écoutez, au début de sa carrière, il faisait comme tout peintre de l'époque, aux Beaux-Arts, il était très inspiré par la nature. Donc, il a fait beaucoup de fleurs, beaucoup de natures mortes, beaucoup. Et ces natures mortes-là, à un moment donné, c'est drôle parce que en admirant la nature, en admirant les plantes, forcément, des fois, on voit des petites créatures qui sortent des plantes, tout ça. Et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et de voir comment il a transformé souvent la vision d'une coccinelle et c'est devenu une entité complètement abstraite qui veut rien dire, mais écoutez, c'est tellement difficile à mettre en mots. Il faut vraiment venir voir l'exposition. Mais... et n'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous allez sur le marché et vous essayez d'acheter un tableau pellant, écoute, il y a des tableaux qui vont bien au-dessus du million de dollars. Mais la production, l'œuvre, les œuvres que le Musée national des beaux-arts du Québec qui vient, rappelons-le, directement du fond de l'atelier de Pellant qui a été donné au musée. C'est des œuvres d'une qualité muséale qui ont été entretenues, encadrées, préparées, qui sont là pour la vente. Et écoutez, on parle d'œuvres qui sont sur les murs à quelques milliers d'heures, peut-être 2 000 $. Dans des éditions, il y a des œuvres qui n'existent, duquel il ne reste qu'une ou deux éditions à vendre sur 10. Donc, si vous avez toujours... Ils sont dans un état absolument extraordinaire. Ils n'ont jamais vu la lumière. Ils sont sortis du coffre-fort du musée pour voir le jour à la galerie. Ils sont dans un état absolument extraordinaire. Si vous voulez un œuvre de Pellant, en plus d'aider la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, c'est le temps de le faire.
Oui, et je rappelle, Jean, que vous êtes aussi sur Internet. Vous avez un site web merveilleux que j'aime bien, www.thompsonlandry.com. Vous pouvez téléphoner, madame, monsieur, tous les jours de la semaine, 364-49-55, l'indicatif 416. Je vous rappelle que la galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 18h et le dimanche de midi à 17h. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi. D'ailleurs, vous avez une grande équipe en anglais, en français. J'adore travailler avec vous. J'espère qu'on aura un partenariat très solide dans les mois à venir parce qu'on aimerait bien promouvoir vos œuvres et nous sommes là pour vous aider et travailler avec vous.
Je l'espère aussi. Ça me fait un immense plaisir de parler à vos auditeurs, puis j'ai bien hâte de vous rencontrer en personne.
Le Printemps Pellant à Toronto, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, jusqu'au 2 juin prochain à la galerie Thompson-Landry, dans ce lieu mythique, Distillery District. Madame, monsieur, qui ne connaît pas cet endroit, allez sur le site web. Est-ce que vous chantez encore? Je sais que vous faites de l'opéra. Est-ce que vous chantez encore?
Écoutez, je chante de moins en moins parce que je suis de plus en plus occupé. Et puis, écoutez, ce qu'on vous a pas dit, c'est que maintenant, je fais principalement de la direction d'orchestre et de la direction artistique. Et malheureusement, l'opéra demande beaucoup de temps de répétition, beaucoup de temps à l'extérieur pour très peu de représentation. Et c'est pour ça que depuis les 15 dernières années, ma carrière de musicien a été beaucoup plus vers la direction d'orchestre et la direction artistique. D'opéra, de répertoire concert, et je chante de moins en moins parce que malheureusement, j'ai moins de temps, mais je tiens l'instrument en forme, il n'y a pas de problème avec ça.
Alors, mes remerciements et mon bonjour, félicitations à tous les membres de votre équipe et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Voilà, tous les auditeurs vous applaudissent et on vous souhaite bon succès. On va se voir très prochainement, j'espère, dans votre galerie, monsieur.
Merci beaucoup et au plaisir.
Donc, au revoir, monsieur Sylvain Landry, cofondateur, propriétaire de la galerie Thompson Landry.
It's the moment of confrontation. 1 million soldiers are ready for the collision. The possibility of defeating the opponent is minimal. The will to win, but will make the difference. Get ready for a roar. Get ready. Increase the sound and let yourself be overwhelmed.
the invasion begins in a few seconds. Get ready.
Tonight in the mix.
Mesdemoiselles et messieurs, après avoir lu le thème flyer et suivi le dress code, vous allez être les témoins d'une nouvelle expérience inédite. Toutes vos données et tous vos sens seront exploités. À partir de maintenant, tout est arrivé. Vous allez être les acteurs principaux de cette soirée. Nous vous remercions de suivre les derniers consignes du boss et de votre DJ. Il est permis de chanter. Il est permis de danser. Il est permis de siffler. Et bien sûr, il est permis de chanter, de danser et de siffler en même temps. Ici, tout est permis. Vous l'avez compris, tout est permis. Nous vous conseillons donc d'être en pleine possession de vos moyens. Désormais, tous vos gestes seront tolérés. Souriez, vous êtes filmé. Car ici, il est permis de draguer. Il est permis de s'embrasser. Il est permis de frapper dans les mains. Et bien sûr, il est permis de draguer, de s'embrasser et de frapper dans les mains en même temps. Car ici, tout est permis.
Let's start the party.
Whatever you want, whatever you need, you can call me everywhere. Is that what you want? You can count on me. That's what I call a friend.
Eh oui, madame, monsieur, voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre voyage intercontinental. Un grand merci à monsieur Carole Gelin, Sylvain Landry, Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, le magazine Jeune Afrique, Sloan, DJ Devera, merci d'avoir été là. À ne pas rater la semaine prochaine, Levée de fonds, une émission spéciale, mais vous pouvez nous appeler tout au long de la semaine, popourri@cut.fm. Merci à Diane, Janine, Maya, Julie et Sloan qui seront ici avec nous. Allez, faites partie de la fête, vous aussi, soyez avec nous. Et bien sûr, nous allons célébrer à notre façon 11 mai, c'est Grand Kassav, groupe qui connaît là partout dans les Antilles, mais aussi à travers le monde. Tout le monde là content bien Kassav, n'est-ce pas? Alors, il célèbre 40 ans, madame, monsieur, le groupe mythique. 40 ans de musique, 40 ans de zouk. Est-ce que cela vous intéresserait d'avoir un dernier CD de Kassav ou encore une compilation? Ou peut-être on vous envoie directement au concert le 11... samedi prochain, hein, c'est dans une des plus grandes salles de spectacle, de concert à Paris, à ne pas rater. Et justement, je vous laisse avec Kassav et je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Kassav, bon anniversaire Kassav, 40 ans déjà, tu nous fais zouker, continue.
Allez, mais vous savez, en jour, même si ma peau souffert, ma partie travail, j'apprends à point.
Bye.